1984. Est-ce que vous avez lu 1984, le roman de George Orwell? Peut-être, peut-être pas, mais dans le cas où vous ne l'avez pas lu, j'imagine que ça ne vous empêche pas d'en faire la référence de certaines de vos allusions culturelles. Bah oui, il y a des livres comme ça qui sont tellement célèbres, qui dépassent tellement le cadre de leurs auteurs, que ça devient la propriété de tout le monde. C'est le cas de 1984. 1984, c'est la forme achevée de la paranoïa individuelle face au totalitarisme de la société. C'est la dystopie ultime du contrôle généralisé des consciences. C'est le cauchemar absolu de la surveillance de tous les instants. Et dans cette fiction qu'a imaginé George Orwell, eh bien, la population vit en permanence sous le regard de ces télécrans, hein, de ces sortes d'objets d'écrans de télévision qui servent autant à diffuser des images de propagande qu'à enregistrer, qu'à scruter, qu'à analyser les faits et gestes de chacune des personnes qui passent devant. Et de cette observation et de cette analyse, eh bien, les entités hein, qui se trouvent derrière, on ne sait pas trop qui c'est, tirent des conclusions sur la psychologie des sujets observés, sur leur degré d'adhésion aux thèses officielles, sur la qualité de leur enthousiasme social, et aussi sur les éventuelles interventions personnalisées, les petites corrections et orthopédies comportementales qu'il serait peut-être nécessaire d'opérer. Bien évidemment, toute ressemblance avec ce que nous connaissons hein, aujourd'hui, sous les vocables par exemple de réseaux sociaux, de moteurs de recherche, ne pourrait être que purement accidentelle. Alors, Winston Smith, le personnage principal, c'est un monsieur tout le monde, genre un petit peu un pauvre type, mais un pauvre type, un brin attachant, hein, et qui vit dans un univers fermé. Il bosse pour ce qui s'appelle le parti. Et il est assez dévoué, tout du moins en apparence. Son job est assez simple, c'est de réécrire l'histoire. Et oui, parce que dans ce monde que nous propose Orwell, les vérités officielles changent au gré des besoins de la propagande. Une vérité d'un jour n'est pas forcément celle du lendemain, et celle qui prévaut aujourd'hui, eh bien, demain passera pour affabulation ou pour mensonge. Alors, le monde est divisé en trois grandes puissances, hein, l'Océania, l'Eastasia et l'Eurasia, et Winston Smith vit en Angleterre, à Londres, dans cette entité qui s'appelle l'Océania, qui englobe l'Angleterre, l'Amérique et une partie du Pacifique. Et l'Océania est alliée avec l'Eastasia dans une guerre interminable et en fait une guerre perpétuelle contre l'Eurasia. Et un jour, pourtant, eh bien, tout change. Parce que l'Océania n'est plus l'allié de l'Eastasia dans sa guerre contre l'Eurasia, mais elle est l'allié de l'Eurasia dans sa guerre contre l'Eastasia. Et en un clin d'œil, toutes les affiches, toutes les banderoles, tous les éléments de propagande sont retirés, sont effacés, sont jetés et sont remplacés par d'autres qui affirment cette nouvelle vérité officielle et l'affirment comme si elle avait toujours été la seule et l'unique vérité officielle. L'Océania a toujours été en guerre contre l'Eastasia et a toujours été l'allié de l'Eurasia. Il est donc de bon ton de répéter ce nouveau credo sur tous les tons et à tout propos afin de s'en persuader jusqu'au plus intime de ses fibres, afin de faire pénétrer cette vérité jusqu'au cœur de la mémoire profonde et ainsi d'effacer la trace et même jusqu'à l'ombre d'un doute possible sur le fait qu'il ait jamais pu en être autrement. Alors Winston, il bosse au ministère de la Vérité, hein, tout un programme. Donc son job, c'est de remanier toutes les traces écrites qui font mention d'une vérité, ou pourrait-on dire d'une réalité, qui soit tant soit peu dissonante avec cette nouvelle vérité officielle que chacun sait être la vérité qui règne de toute éternité. Le monde de 1984 est un monde où le passé est en perpétuel évolution, en perpétuelle rénovation, remodélation, révision. Et il est remodelé ainsi pour pouvoir être aligné sur le présent. Il justifie le présent. Et tout le monde suit le mouvement, hein, dans une espèce d'émulation, de collective hystérie. Chacun répète à l'envi les nouvelles vérités officielles du présent et la nouvelle narration du passé qui sous-tend ce présent. Chacun se persuade du plus sincèrement qu'il peut qu'il en a toujours été ainsi. Et chacun craint sous le regard des autres et sous le regard des télécrans également de ne pas être assez sincèrement pénétré du caractère absolument inquestionnable de ces vérités fondatrices. Chacun cherche aussi, puisque la meilleure défaite contre l'angoisse, eh bien, c'est un petit peu l'agressivité, c'est d'aller un peu chercher les autres et les faire chier, hein, si vous me passez cette licence poétique. Eh bien, la meilleure défense donc étant l'agressivité, les gens cherchent à repérer chez les autres les signes subtils, mais significatifs d'une adhésion un peu trop tiède au dogme collectif. Et là encore, toute ressemblance avec la psyché profonde de l'homme occidental moderne ne serait que fortuite, hein. Parce que chacun sait bien que ce genre de cauchemar ne peut se dérouler que très loin de chez nous, là où il n'y a pas de liberté d'expression, vous savez. Hein, bah, par exemple, en Corée du Nord, hein, la Corée. Ouais. Bon, alors moi, j'en sais rien. Hein, la Corée, les Coréens du Nord, je ne sais pas s'ils sont réellement aussi abrutis, aussi décérébrés qu'on veut bien nous les vendre. Mais en tout cas, les Coréens du Nord, ils nous servent en négatif à nous autres, à nous sentir diablement intelligents. Ah oui, hein, et diablement évolués, nous les citoyens contemporains des démocraties occidentales. Nous sommes doués d'une liberté de parole et d'une liberté de conscience qui nous immunise définitivement contre la soumission à tout type de mots d'ordre. Les pauvres Coréens du Nord, ils n'ont pas eu cette chance, eux. Eux, ils vivent sous la coupe de lois de fer, eux, ils doivent se soumettre aux dogmes et aux vérités officielles qui sont inscrits dans la loi en lettres d'or et qui les empêchent à tout jamais de questionner le comment et le pourquoi de la société, de questionner l'histoire. Nous n'avons pas de telles lois restrictives, nous, hein, des libertés individuelles. Chacun sait bien que nous avons l'entière liberté de mener quelques recherches que ce soit dans le champ historique qui nous plaît, sous réserve bien sûr que ces recherches entrent dans le cadre des résultats préalablement attendus. Ah bah oui, hein, bah oui, parce que sinon ça devient le bordel, quoi. C'est la porte ouverte à n'importe quoi, hein, d'accord. La loi Fabius Guesso n'est pas là pour restreindre notre liberté d'expression. C'est bien ça qu'il faut que vous vous mettiez dans le crâne. Hein, n'est pas là pour restreindre notre liberté de questionner l'histoire. Elle ne vise qu'à quoi ? Pourquoi elle est là, cette loi ? Eh bien, je vais vous le dire, moi. Hein, elle est là pour prévenir tout dérapage et toute recherche dont les conclusions ne prévoiraient pas de retomber à l'avance sur les faits préalablement établis à cette recherche. Alors ça n'a rien à voir donc avec la Corée, hein, et rien à voir non plus avec le monde de 1984 dans lequel Winston Smith se sent mal à l'aise. Et oui, il se sent mal à l'aise parce que il sait bien que quelque chose ne tourne pas rond sans savoir exactement ce que c'est. Et un jour, sans trop savoir pourquoi, il achète un carnet dans une boutique, un cahier. De retour chez lui, il ouvre ce cahier, et il y a aussi dans son appartement un tout petit recoin qui échappe à la vigie permanente des télécrans. Alors il ouvre ce carnet, et là, devant la page blanche, quelque chose se passe. L'alchimie opère. Je m'appelle Winston Smith. Je sais qu'il n'y a pas si longtemps, nous étions en guerre contre l'Eurasia et non contre l'Eastasia. Il n'y a plus aucune trace de cela maintenant, mais je le sais au plus profond de moi. À partir de là, le personnage dérive, le personnage décroche du lien social. Et avec l'approfondissement progressif du sentiment de soi que procure cette forme particulière d'écriture qu'il pratique, se peignent à son esprit, en couleurs de plus en plus nettes, les contours et la structure des mensonges propagés par le parti. Winston passe à travers le décorum, examine les armatures et fait le tour pour la première fois en pleine lumière de la prison mentale dans laquelle il est enfermé, dans laquelle tout un chacun est enfermé. Et la prison de la pensée est au premier chef, dans 1984, la prison du langage, la prison de cette novlangue, de ce néo-parler appauvri et caricatural, qui n'opère plus que par catégorie grossière, par opposition tranchée et nette. On est ami ou on est ennemi. Une chose est bonne ou elle est mauvaise. Alors parfois elle peut être plus bonne, ou bien carrément double plus bonne. Mais elle ne sera jamais autre chose que bonne ou que mauvaise. Elle ne pourra jamais sortir de ses alternatives simplistes et impropres à rendre compte de la complexité du monde et aussi de la subtilité d'une pensée. Empruntant les éléments et les formules consacrées de ce langage officiel appauvri à dessein, la pensée se trouve infirmée, incapable de se frayer une voie en dehors des catégories qui lui préexistent et qui l'enferment dans des alternatives qui s'équivalent. Pas de naissance à la nouveauté, pas d'aube nouvelle au ciel de l'esprit, pas de connaissance, mais un ressassement perpétuel sur le mode de l'hystérie, sur le mode du stimulus-réponse, de l'émotion torrentielle et collective. Quelque chose de l'ordre de l'arc réflexe qui tient lieu et place du sentiment de soi et de la sensation d'être en vie. Et là encore, chers amis, toute ressemblance avec le monde tel qu'il est et tel qu'il va ne pourrait être que pure coïncidence. La culture, chers amis, c'est de la miel. C'est moi, Oscar Galapagos, qui vous le dis. Et 1984, c'est de la miel en concentré, bien que ça ait le goût et l'amertume de ce qui ressemble au réel d'un peu trop près. Mais certes, la marge de manœuvre est encore assez grande et la distance d'ici à la fiction est importante. Il est vrai qu'Orwell n'avait pas encore imaginé la fusion progressive entre les systèmes biologiques et informatiques, le développement de l'interface homme-machine et l'absorption des réseaux neuronaux dans une entité informationnelle qui, en dernier lieu, pourra bien se passer d'eux. Eh oui, Orwell, c'est la fin d'une certaine humanité. C'est pas encore la fin de l'espèce humaine.